Cham philo.
Parce qu'au lycée, la philosophie ne se trouve pas seulement dans les manuels.
Cham philo.
Elle résonne dans chaque question, dans chaque débat de la vie quotidienne.
Monsieur Théodore Twombly, bienvenue dans le monde du premier système d'exploitation à intelligence artificielle. Nous aimerions vous poser quelques questions.
Ok.
Êtes-vous un être social ou antisocial ?
Je crois que je n'ai pas été très social dernièrement.
Comment décririez-vous votre relation avec votre mère ? Merci. Veuillez attendre pendant que votre système d'exploitation est initialisé.
Bonjour, je suis là.
Salut.
Salut, je suis Samantha. Bonjour Théodore.
Bonjour.
Vous avez une réunion dans 5 minutes. Vous voulez essayer de sortir du lit ?
Vous êtes trop drôle.
Je suis drôle, bien, ok. Je veux apprendre tout sur tout.
J'aime votre façon de voir le monde.
À quand votre nouvelle relation ?
De quoi vous parlez ?
J'ai vu dans vos courriels que vous vous êtes séparés.
Vous êtes culottés, je trouve.
Alors c'était comment être marié ?
C'est un sentiment assez merveilleux que de partager sa vie avec quelqu'un.
Comment partage-t-on sa vie avec quelqu'un ?
Comment vas-tu ?
Disons que je me suis juste bien amusé.
Je trouve que tu y avais droit.
Ça fait longtemps que j'ai pas été avec quelqu'un avec qui je me sens totalement à l'aise.
Comment c'est d'être en vie dans cette pièce à cet instant précis ?
J'aimerais pouvoir mettre mes bras autour de toi. Pouvoir te toucher.
Comment me toucherais-tu ?
Est une chose absurde à faire. C'est comme une forme socialement acceptable de... d'aliénation.
Comment un bébé ordinateur appelle son père ?
Je ne sais pas comment.
Pop-up.
Est-ce que tu me sens avec toi en ce moment ?
Jamais je n'ai aimé quelqu'un comme je t'aime, toi.
Maintenant, je sais comment.
Dans le film Her, le personnage principal, joué par Joaquin Phoenix, tombe amoureux d'une intelligence artificielle. Alors que l'intelligence artificielle connaît des progrès fulgurants à mesure que le temps avance, nous pouvons légitimement questionner les nouveaux défis que nous posent les progrès de la technologie. Qu'est-ce que la philosophie peut nous apporter avec l'apparition de ces nouveaux outils et des nouvelles possibilités que nous offre le progrès technique ? Quels sont les défis éthiques posés par les avancées technologiques, comme l'intelligence artificielle et la génétique ?
Alors, les défis qui sont posés par ces deux grandes avancées, que sont d'une part donc les avancées en génétique et les avancées en termes d'intelligence artificielle, peuvent être donc caractérisés de plusieurs façons. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'effectivement, on n'a pas encore toutes les réponses. Ce que ces progrès de la technique proposent, c'est avant tout des questions. On a beaucoup de questions qui apparaissent. Par exemple, donc, dans le cadre de l'intelligence artificielle, ça va être dans le film Her, cette idée qu'un personnage peut mener peut-être une relation amoureuse ou sentimentale avec un programme informatique. Bon, ça c'est une première chose. Quand on parle de défis éthiques, si on rentre dans une démarche donc, de définition, il faut ainsi, en fait, d'abord donc revenir à ce que c'est ce mot. Le défi éthique, ça signifie donc éthos. L'éthos en grec, ça désigne en fait un caractère. Les mœurs, ça désigne en fait une branche de la philosophie qui va s'occuper de nos attitudes, de la façon dont on se comporte les uns avec les autres, mais aussi avec donc ce qui nous entoure, peut-être aussi avec nous-mêmes. Donc, qu'est-ce que ça signifie en cas, donc, dans le cadre de ces progrès dans l'intelligence artificielle ? C'est le fait que l'IA propose des systèmes informatiques capables de réaliser des tâches normalement réservées aux humains, mais qui vont ici être développées de manière plus intense. Ce que nous apporte avant tout la technologie et le développement de l'intelligence artificielle, tout comme le développement de la génétique, ce sont avant tout des questions. On n'a pas toutes les réponses, mais en tout cas beaucoup de questions surgissent dans l'apparition de ces différentes techniques. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on parle donc d'éthique, de défi éthique, et il faut donc définir ce que c'est que l'éthique. L'éthique, en fait, ou la morale, ça désigne le caractère, les mœurs, et va donc désigner une branche de la philosophie dans laquelle on va s'occuper de nos attitudes et de la manière dont on se comporte avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. Ainsi, si on peut donc aussi définir les deux objets qui nous intéressent donc, pour cette émission, pour l'intelligence artificielle, il va être question des systèmes informatiques qui sont capables de réaliser des tâches que les humains font d'habitude, mais qui vont ici être qui vont avoir des implications dans le cadre, par exemple, de la création artistique pour la production d'images numériques, dans le cadre de la prise de décision pour, par exemple, les voitures autonomes. Bref, l'intelligence artificielle se substitue à l'être humain dans des prises de décision, dans la production de contenu et dans la réflexion en général. De son côté, les technologies génétiques vont avoir donc des implications en termes donc de modification de l'ADN, en termes donc de modification aussi des processus vivants. Les défis éthiques posés par les avancées technologiques, et donc aussi pareil pour la génétique, posent avant tout donc des questions. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore les réponses à ces questions. Il y a beaucoup de questions qui sont posées par ce progrès de l'intelligence artificielle et de la génétique. Quand on parle de défi éthique, on utilise un mot qui est important, c'est le terme éthique. L'éthique, ça vient du grec éthos, qui veut dire à la fois les caractères, les mœurs, et qui va désigner en fait la façon dont on se rapporte à nos attitudes et nos moyens de nous comporter. L'éthique, c'est une partie de la philosophie, et donc ici, notre enjeu, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut appréhender les défis posés par et l'intelligence artificielle et la génétique. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des systèmes informatiques qui peuvent réaliser des tâches assez complexes que d'habitude les humains faisaient d'eux-mêmes. Mais ici donc, c'est-à-dire générer des textes, générer des images, générer également aussi donc des décisions. Et ici donc, l'intelligence artificielle va avoir des répercussions dans différents domaines. Les technologies génétiques de leur côté, quant à elles, visent en fait l'édition de gènes, et elles vont donc avoir des répercussions sur le vivant, sur l'ADN et donc sur l'être humain. Donc ici, ce qu'on retient de ces deux avancées techniques, c'est qu'en fait, elles ont le potentiel de transformer de manière très profonde à la fois nos vies, également nos sociétés, et donc de poser des questions en termes de justice, en termes de responsabilité individuelle, de vie privée, et puis même finalement, dans la définition même de ce que ça signifie être un être humain.
Mais alors, comment est-ce que les philosophes se positionnent par rapport à l'apparition de ces nouvelles technologies ? Est-ce qu'il y a une référence traditionnelle pour parler du progrès technique en des termes philosophiques ?
Alors en effet, la technique, c'est donc un problème en fait déjà posé dans la philosophie depuis ses origines. Technique, c'est un terme grec également. Hein. Technique en grec, ça vient de techné, qui signifie l'habileté, le savoir-faire. Et donc en fait, la technique, c'est déjà un objet philosophique dès ses débuts. La grande référence à laquelle on pense, c'est le mythe de Prométhée dans un dialogue qui s'appelle le Protagoras de Platon. Platon, en fait, propose un mythe fondateur, c'est celui donc de l'apparition de la technique par le titan Prométhée qui vole aux dieux le feu sacré, la technique. La technique, donc ici, elle a une ambivalence. D'un côté, c'est donc un objet dont on avait besoin pour survivre. Rappelons-le ici, dans le cadre du mythe de Prométhée, en fait, Prométhée doit voler le feu aux dieux puisque les êtres humains n'ont pas d'outils, n'ont pas d'armes, alors que les animaux, quant à eux, sont pourvus de fourrure, sont pourvus de griffes. Donc la technique, c'est ce qui est posé par l'être humain comme étant sa capacité de survivre, sa capacité donc de pouvoir développer ses capacités. Et le fait que Prométhée vole cette technique aux dieux permet aux êtres humains de survivre. Donc d'abord, la technique est pensée comme étant un avantage, quelque chose qui va forcément être une amélioration des conditions de l'être humain. Sauf qu'en même temps, c'est un vol, ce qui signifie donc que le feu qui est volé aux dieux signifie qu'il a aussi un caractère un peu maudit. La technique va représenter, en fait, elle a une ambivalence, puisqu'en volant ce feu, il a aussi un caractère destructeur. Quand les êtres humains obtiennent le feu, ils peuvent aussi à la fois l'utiliser pour donc cuire des aliments, pour produire donc pour pouvoir survivre en hiver, peu importe, mais c'est également le feu qui produit la destruction et qui peut apporter aussi la perte de l'espèce humaine. Donc déjà dès l'époque des Grecs, la technique a une ambivalence.
Donc en ayant conscience de ces répercussions, le progrès technique est donc perçu comme faisant l'objet d'une sorte de retenue. Les philosophes sont donc souvent sceptiques dès qu'un nouvel outil fait son apparition, comme avec l'apparition de ChatGPT et de l'IA.
En effet, toute nouvelle technique a des répercussions certaines. Et si on prend donc l'exemple de ChatGPT et de l'intelligence artificielle, on voit ici que des conséquences peuvent être produites à plus ou moins long terme sur nos facultés intellectuelles, par exemple. Ici, je vais reciter de nouveau Platon, dans le dialogue ici du Phèdre, dans lequel est proposé un autre mythe, qui est le mythe du dieu Thoth. Thoth, c'est le dieu égyptien de l'écriture. Et en fait, Platon explique l'origine un peu mythologique de l'écriture en Égypte, avec le dieu Thoth qui dit « Voilà, Pharaon, je t'apporte cette nouvelle technique qui est l'écriture. Elle va permettre à tes citoyens de pouvoir délester leurs pensées sur du papier et donc d'avoir davantage de place, davantage de mémoire, mais également donc d'être plus savants puisqu'ils pourront conserver tous leurs écrits dans des bibliothèques. Ici, on se dit waouh, super, la technique apporte quelque chose de nouveau qui est donc une capacité donc surdimensionnée de l'être humain qui va être de pouvoir avoir davantage de mémoire, de pouvoir être plus savant. Or, que répond le pharaon à Thoth ? Maudit sois-tu, Thoth, puisque en apportant l'écriture, en fait, tu rends mes citoyens plus ignorants et tu altères leur faculté de mémoriser des choses. En écrivant sur papier, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, on vide sa tête sur un document écrit. Et puis finalement, les bibliothèques sont perçues comme étant un lieu où tout le savoir qui est censé être dans la tête des individus va se retrouver donc enfermé derrière des livres, ce qui fait que l'être humain se retrouve peut-être plus ignorant alors qu'il a l'impression d'être plus savant. Donc cette première répercussion de la technique ici, elle est perçue par Platon à travers cette altération des facultés humaines. Un progrès technique risque en fait de générer, par exemple dans le cadre de l'écriture, l'oubli et l'ignorance. Si on applique ça avec ChatGPT, on peut voir effectivement que si ChatGPT pense à notre place, peut-être qu'on peut légitimement être un petit peu sceptique vis-à-vis donc de notre capacité à raisonner si on a recours à ChatGPT de manière régulière. Plus concrètement, il y a aussi trois points qu'on peut aussi nommer dans le cadre des dangers que pose l'intelligence artificielle aujourd'hui. Le premier, donc, ça va être le cadre des biais algorithmiques, c'est-à-dire le fait que les systèmes d'IA sont souvent donc conçus avec des données qui sont préenregistrées, ce qui fait qu'il y a des biais dans la façon dont le contenu est généré. D'autre part aussi, il y a la question de la responsabilité. Un grand problème qui se pose maintenant, si on crée des voitures autonomes et qu'une voiture autonome perd ses freins, si elle fonce sur un passage clouté, est-ce qu'elle doit percuter la personne qui traverse ou est-ce qu'elle doit éviter la personne qui traverse pour atterrir dans un mur et donc tuer potentiellement le conducteur de la voiture autonome ? Ce sont donc des problèmes qui sont posés par la façon dont l'intelligence artificielle fait des choix. Et puis troisième point, il y a aussi la question de la vie privée. En collectant des données privées et des données personnelles, finalement, en fait, il y a un problème qui est lié à la façon dont on confie nos informations les plus intimes. Et dans le cadre du film Her, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on assiste à cette relation sentimentale entre Theodore et Samantha, sauf que ça implique également le fait que Samantha a accès en fait à la vie la plus intime et la plus privée de Théodore, puisqu'ils partagent une relation sentimentale où Théodore évoque donc ses secrets les plus intimes.
Mais on peut peut-être aussi soulever le problème de la création et des droits d'auteur en ce qui concerne l'IA.
En effet, on voit aujourd'hui par exemple des productions d'images qui sont effectivement inspirées d'œuvres qui préexistent déjà, et qui en fait sont des collages, des altérations d'œuvres qui ont été produites par des artistes, par des auteurs. Et en fait, quand on voit les protestations des scénaristes à Hollywood, on peut effectivement légitimement comprendre leur inquiétude, puisque si une intelligence artificielle peut produire un scénario de film, si une intelligence artificielle peut produire des peintures, des images avec une originalité, une création tout à fait singulière, et bien effectivement, ces métiers créatifs, ces métiers qui reposent sur l'originalité, finalement sont en danger ou en tout cas peuvent être peut-être remplacés ou dans tous les cas ils ne sont plus aussi nécessaires qu'avant. Si un scénariste peut, si le travail d'un scénariste est remplacé par celui d'une IA, effectivement peut-être que le producteur du film aura peut-être davantage recours à une solution moins onéreuse qu'une personne humaine qui travaille.
Plein de questions ouvertes et de débats à trancher avant que ces cas particuliers se présentent donc. Et que penser des défis éthiques posés par les technologies génétiques ?
Alors, de leur côté, les technologies génétiques, comme l'édition de gènes avec le cas, donc, par exemple, de CRISPR-Cas9, c'est une molécule qui permet d'altérer le génome humain, cette édition des gènes pose des problèmes en lien avec la définition de ce que c'est qu'être un être humain. Le risque principal auquel on pense est par exemple celui de l'eugénisme. Si on arrive donc à choisir à l'avance les caractéristiques de notre enfant, eh bien finalement, cela provoque d'une part des inégalités génétiques et d'autre part une responsabilité sur le long terme. Donc si on peut générer donc des bébés à l'avance comme dans Le meilleur des mondes, on peut effectivement imaginer le problème ici qui est de choisir à l'avance les caractéristiques génétiques des enfants. Et cette possibilité provoque des inégalités si des personnes ont accès à cette technologie-là alors que d'autres ne l'ont pas. Donc ici, il y aurait des écarts entre des personnes et ça provoquerait des distinctions dans la société. Il y a déjà plein d'écrits d'anticipation qui évoquent cette possibilité de caste de personnes qui seraient soit donc choisies génétiquement ou même augmentées par la technologie. On parle effectivement d'augmentation par la technologie quand on a un bras robotique ou des éléments du corps qui sont remplacés par des objets technologiques. Au-delà de ça, il y a aussi la question du consentement sur un plus long terme, c'est celui des générations futures. C'est-à-dire que finalement, si on modifie les gènes d'un embryon à un instant T, cela peut aussi affecter les générations futures qui n'ont pas leur mot à dire sur ces modifications au génome humain. Et donc cela soulève des questions également sur le droit des générations futures à exister de manière donc presque naturelle. Enfin, en tous les cas, il est question ici d'un cadre qu'on doit mettre en place. La technologie génétique ici, elle pose un problème qui est qu'on doit pouvoir protéger les droits et les droits des individus qui ne sont pas encore nés. Et ici, donc, la science et la législation doivent travailler ensemble pour essayer donc d'anticiper tous ces cas de figure. L'enjeu ici, c'est notre responsabilité et c'est aussi un problème de valeur. La valeur qu'on donne à la vie, la valeur qu'on donne effectivement à ces processus biologiques-là. C'est une question ici de valeur morale. Est-ce qu'il est bien ou est-ce qu'il est mal de faire cela? Et donc l'enjeu ici, la réponse à cette question ne se trouvera pas dans la science seule. Il faut aussi avoir une réflexion philosophique sur notre rapport à l'être humain en général. L'auteur auquel on peut penser quand on évoque ces questions-là, c'est Hans Jonas, qui a écrit donc un ouvrage sur le principe de la responsabilité et qui énonce ainsi le fait qu'il faut agir de façon que les effets de notre action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Une autre formulation d'Hans Jonas, c'est la suivante. Inclus dans ton choix actuel l'intégrité future de l'homme comme objet secondaire de ton vouloir. Alors ça paraît un peu compliqué comme ça, mais ce qu'il faut retenir de cette définition, c'est qu'en fait, notre action morale doit être impliquée dans ses conséquences à long terme sur la vie humaine. Et donc, quand on fait une action, le principe de responsabilité nous oblige à anticiper les répercussions sur la vie humaine à venir. Ces répercussions, elles sont à la fois liées, par exemple, au changement climatique, à notre rapport à l'environnement, mais dans le cadre précis de l'eugénisme, dans le cadre des questions liées aux altérations du génome humain, il est aussi question de ce rapport à la vie authentiquement humaine. Qu'est-ce que c'est qu'une vie authentiquement humaine? Est-ce que l'altération du génome est quelque chose qui vient altérer la nature humaine? Et cette question-là, c'est donc une question de responsabilité.
Merci beaucoup pour cette discussion enrichissante. Nous espérons que cela aura donné matière à réflexion à nos auditeurs. À bientôt pour un prochain épisode.
J'aime philo. Parce qu'au lycée, la philosophie ne se trouve pas seulement dans les manuels.
J'aime philo.
Elle résonne dans chaque question, dans chaque débat de la vie quotidienne.